Europe 1, la table des bons vivants.
Je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre à peler, à perdre mes cheveux. Le gras, c'est la vie.
Laurent Mariotte.
Ben oui, c'est ce qu'on va vous dire encore quelques minutes, vous allez entendre. Mardi prochain, c'est Mardi Gras, l'occasion de manger des beignets, bien entendu. Mais là, je vous vois venir tous, chers auditeurs, avec des beaux souvenirs de beignets de carnaval de votre enfance. C'est vrai qu'on a tous des souvenirs, on va en parler justement. Mais tiens, Yves Candebord, Olivier Pouls, pourquoi mange-t-on des beignets à Mardi Gras? Vous savez?
Oui, c'est une tradition, me semble-t-il, charcutière. Après avoir fait jeûne pendant toute la période de carême, eh bien, on rompt le carême. Et les charcutiers avaient des stocks de gras qu'ils n'avaient pas vendus pendant toute cette période et qu'ils utilisaient pour confectionner des beignets.
Je confirme en tant que fils de charcutier. J'ai parlé il n'y a pas très longtemps pour la Chandeleur des fameuses crêpes de papa. Eh bien, une fois de plus, à ce moment-là, il sortait dehors la friteuse et il faisait ses fameux beignets de Mardi Gras.
C'est le contraire, Olivier, vous dites que c'est après carême, mais non, le carnaval c'était la dernière occasion d'écouler les stocks d'œufs et de gras avant le carême.
Ah oui, c'est juste avant.
Parce qu'il y a le mercredi des cendres qui annonce le carême après Mardi Gras, dès le lendemain, et là on rentre dans une période, on va dire, presque de jeûne, où on oublie le gras, donc on s'éclatait avant, on éclusait les stocks de gras, si je puis dire. Et à propos, tiens, c'est quoi vos stocks de gras chez vous, à la maison, Yves?
Alors moi je vais vous surprendre, parce que je pense que vous vous attendez graisse de canard, graisse de foie gras, et non, mais... Laurent. Non, c'est du végétal. C'est beaucoup d'huile végétale aromatisée, des huiles d'avocat, des huiles de courge, l'huile de sésame, l'huile de noix, l'huile de noisette. J'adore ces condiments parce que ça me permet d'assaisonner la cuisine, de donner une âme sans justement avoir la lourdeur du gras, juste avoir la subtilité du gras.
Première pression à froid pour qu'elles emprisonnent bien tous les nutriments, tous les oméga 3, voilà, effectivement. Ouais. Et vous, alors Olivier, alors laissez-moi deviner, je vous regarde, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Alors je connais votre frigo, mais il y a des plaquettes de beurre, ça c'est sûr.
Il y a du beurre parce que j'adore ça. Voilà. Et puis, une fois encore, on ne renie pas ses origines. Dans la friteuse, j'ai du blanc de bœuf, du gras de bœuf.
Oh là là.
Parce que pour faire des frites, on n'a encore rien inventé de mieux. C'est incomparable. On peut faire ce qu'on veut. J'aime bien les frites à la graisse de canard, j'aime bien les frites à l'huile, mais les frites au gras de bœuf.
Et puis ça embaume les vêtements, c'est ça qu'il faut dire.
Il va pleurer. Il a les yeux qui sont en train de se gonfler.
Quel gras on utilise pour faire des beignets de carnaval, Yves?
Alors, pour faire des beignets de carnaval, on utilisait de l'huile arachide. Voilà, qui est une huile qui ne marque pas, et surtout qu'une huile qu'on peut monter à température assez élevée. Parce que quand on fait des beignets de carnaval, c'est des beignets qui sont frits dans de l'huile. Et la cuisson est très importante. Parce que si on fait une cuisson trop basse, ça va trop s'imprégner de gras. Tandis que si on fait une cuisson au-dessus de 170 degrés, ça permet d'avoir un beignet qui va rester quand même gras, il ne faut pas se voiler la face.
Oui, mais qui va être saisi.
Mais qui va être saisi et qui va avoir la subtilité entre le croustillant et le moelleux.
Alors, il y a plus de 25 variétés de beignets à travers toute la France. Vous en avez quelques-uns, tiens, sous la main, sous la dent?
Les bugnes, par exemple.
À Lyon.
Lyon, évidemment, grand classique.
Les beignets de carnaval en Lorraine, on appelle
évidemment,
ça comme
ça. Et puis dans le sud-est, il y a l'oreillette provençale. Et chez nous, ma grand-mère, à l'hôtel du commerce à Navarinx, nous faisait des merveilles pour Mardi Gras qui sont différents, que ce n'est pas tout à fait les mêmes beignet qu'on peut trouver de façon classique, c'est un beignet avec une pâte sablée.
Vous m'avez parlé d'un beignet tout à l'heure en Bretagne, Olivier, avant de commencer l'émission.
Dans les Côtes d'Armor, les beignets de Tréguier, originaire de la ville du même nom, et ça sont des beignets qui sont fourrés par une petite tranche de pomme ou de pomme râpée. Alors on les cuit d'abord à la poêle, et ensuite on les termine sous le grill, ils ne sont pas immergés dans le gras.
Et en Touraine, il y a un beignet qui est magnifique, que je viens de faire cette semaine pour mes émissions de télévision, pour tout vous dire, mais là je me tourne vers vous, parce que vous êtes le champion de ce beignet, Yves, c'est le Pédnon.
Ouais, j'ai été champion du monde.
Mais il est champion,
j'ai été champion du monde.
Mais vraiment?
Et oui, tout à fait, c'est vrai, c'est à Chartres, c'est les éditions Menu Frottin qui font un festival de cuisine à Chartres et qui ont créé ce championnat du monde du Pédnon, auquel j'ai participé maintenant, ça fait 3 ans. Et je l'ai gagné, avec un pédonon très particulier parce que j'avais fait un pédonon au foin et à la fleur d'oranger.
Oh, joli.
Mais c'est très facile, c'est-à-dire que c'est une pâte à choux, en fin de compte. Je fais infuser du foin dans mon lait pour faire la pâte à choux. Et après, je rajoute de la fleur d'oranger. Alors, l'astuce aussi pour bien réussir un beignet de Mardi Gras, Laurent, qui est à base de pâte à choux, desséchez fortement votre pâte à choux quand vous allez la faire. Et après, par rapport aux recettes classiques, rajoutez toujours 10% de jaune d'œuf.
Mais c'est, voilà, c'est le moment de faire des beignets de carnaval. C'est mardi prochain, le jour de Mardi Gras. Et il faut faire un petit clin d'œil à nos amis charcutiers qui nous écoutent, parce que la tradition veut effectivement qu'on vende les beignets au départ chez les charcutiers.
Oui, ouais, c'était les charcutiers, avant même les boulangers, avant les pâtissiers, qui, à la saison du Mardi Gras, faisaient ces fameux beignets, puisqu'ils avaient, voilà, ils avaient des friteuses adaptées pour pouvoir les réaliser. Et c'est vrai que c'est beau à voir, Laurent, quand vous faites un beignet, quand vous le mettez dans l'huile, il se retourne tout seul. Et petit à petit, il y a des grosses alvéoles qui apparaissent, hein, et qui vont faire que vous allez avoir un beignet qui va être très gonflé, vide bien sûr au centre, et très croustillant.
Et ben voilà, le gras, c'est la vie. On continue d'aimer le gras. Beurre, huile d'olive, huile de colza, graisse de canard, saindoux. Priez pour nous, blanc de bœuf, la galaxie du gras est infinie. On revient juste après ça.
Qu'est-ce qu'il dit, André, ce soir?
Ce soir, il dit en beurre d'escargot et queue de bœuf.
Parfait, pour deux.
Moi, ça va faire trop.
Quoi ? Ça va pas être grossière, en plus. Ici, on prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Ah, c'est magnifique.
Mais c'est tellement vrai.
Eddie Mitchell, dans Le Bonheur et dans Le Pré, c'est avec Sabine Azéma, c'est une scène sublime. Alors, c'est vrai qu'il fait froid et pour célébrer le gras, nous fêtons en avance Mardi Gras. Loin de nous, hein, l'idée de manger de la graisse de phoque comme les Inuits, mais je vous propose de faire un inventaire des bonnes graisses que nous conservons à la maison. On va commencer par le beurre, c'est un petit peu notre graisse de phoque à nous, les Français, enfin, du moins au nord de la Loire, hein. 8 kilos, tiens, par habitant et par an, c'est ce qu'on mange en beurre en France.
Ils ne m'ont pas compté dedans.
Non, mais vous explosez le record, vous. Record mondial, hein, devant l'Allemagne. Et le gras, c'est aussi de belles histoires de beurre. Je pense au beurre de madame qu'on a avec nous aujourd'hui, qui est un beurre salé, qui a une belle couleur jaune-orangée, qui a un goût inoubliable. Et ça, on le doit au travail de Thierry Lemarchand, qui est un éleveur breton qui a bien failli mettre la clé sous la porte en 2016. Il a été aidé par la famille Rollinger et il s'est lancé dans la réalisation de ce beurre fermier. Vous avez vu la couleur un petit peu,
oui, magnifique.
Il est sublime. Alors, c'est un lait qui est obtenu avec le lait d'une vache spéciale qui est la Froment du Léon. C'est une race rustique du nord du Finistère. Alors, c'est un lait cru, évidemment. Et moi, comme on dit, j'aime le sentir parce que là, on est dans l'étable.
Ah ben on est dans l'étable. Hein,
ouais. On est dans l'étable, mais ça ne sent pas comme l'étable parce que l'étable, quand même, ça pourrait oui, avoir beaucoup de puissance, oui, oui, et être un peu désagréable. On est vraiment dans la finesse de, voilà, du foin de la paille séchée et qui amène une onctuosité et surtout qui amène, je dirais, un côté très suave, très doux, ouais, en bouche.
C'est vrai que oui, on n'est pas au cul de la vache. Comme
on n'est pas
parle,
au cul de la vache. Voilà,
il est jaune, bon, intense, hein, le beurre, ouais, de madame. Je vous le dis, c'est Thierry Lemarchand qui fabrique, qui réalise ce beurre avec ce lait de la Froment du Léon. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce lait? Eh bien, on va lui poser la question. Bonjour Thierry Lemarchand.
Bonjour.
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 Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce lait de Froment du Léon, alors?
Ah, la Froment du Léon, ben, c'est un lait qui est riche en matières grasses. La froment a un gène qui lui permet de fixer le carotène de l'herbe qu'elle mange, qui lui donne sa couleur. Et la taille des globules gras du lait de Froment du Léon est plus gros, qui lui donne une tartinabilité plus facile. Quoi.
Ah,
et
c'est grâce aux globules gras.
Voilà.
Les globules gras, il y avait les globules blancs que Olivier Pouls connaissait bien, les globules rouges. Mais là, on vient d'apprendre qu'il y a des globules gras, alors.
Ah bah, le gras, c'est nécessaire à notre organisme. Notre cerveau est l'organe le plus gras de tout notre corps et on a besoin de gras pour renouveler nos cellules.
Hein. Yves Candebord parlait de ce goût subtil de votre beurre, Thierry Lemarchand. C'est un goût qui change selon les saisons en plus.
Ah bah clairement, l'herbe influe énormément sur la qualité du beurre. Les acides gras insaturés, on les a au printemps et toute la saison d'herbe. Ça se voit sur la couleur et sur la tartinabilité.
Vous êtes rassuré, Olivier ?
Oui, vous savez que les scientifiques se penchent aujourd'hui sur le gras. Et des études tendraient à démontrer que le gras serait peut-être la sixième saveur. Alors pour l'instant, il y a encore un petit débat. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le gras a une faculté incroyable à capter tous les arômes, toutes les saveurs. Prenez du beurre, vous laissez dans le frigo avec une odeur forte, il va s'en imprégner et ensuite à le restituer.
Dans l'alimentation de nos animaux, il faut faire très attention. Si on donne des choux, par exemple, à manger à des vaches, clairement, vous aurez un beurre qui a un goût de choux. Donc, c'est des aliments à proscrire.
Merci et bravo pour ce beau beurre, Thierry Lemarchand. Et merci d'avoir été avec nous. Et bon week-end. Merci, ouais. Thierry Lemarchand.
Bon week-end.
Et
au revoir.
Vive le joli beurre de madame de Thierry Lemarchand. Alors ça, c'est un beurre de dégustation. Hein. Ça vaut quand même son prix. Là, on est à 8 euros le joli pot de beurre. Mais il y a des beurres de cuisine aussi qu'il ne faut pas oublier, Yves.
Oui, oui, complètement. Mais même ce beurre-là, Laurent, aujourd'hui, hein, on a un travail avec le beurre qui est totalement différent, je dirais, il y a une trentaine, quarantaine d'années. Alors, je vais vous prendre un exemple concret, c'est quand on fait un poisson meunière. Voilà, à l'époque, on démarrait avec une pointe d'huile d'arachide, on rajoutait le beurre. Quand le beurre était mousseux, et on mettait pratiquement en temps pour temps beurre et huile, on mettait notre poisson et on arrosait. Voilà, on arrosait. On imprégnait le poisson vraiment du beurre. C'est-à-dire que le poisson était gorgé de beurre. Alors certes, c'était très très bon, mais il faut le reconnaître, un peu lourd. Aujourd'hui, on a changé la méthode parce que justement, on prend des meilleurs beurres et on en met beaucoup moins. Comment on fait ? Pareil, démarrage avec une huile d'arachide ou huile d'olive. On va rôtir notre poisson et juste à la fin, on va prendre pour un poisson 15 g de beurre qu'on va mettre dans la poêle. Dès qu'il va mousser, on va arroser légèrement le poisson. Et là, on va avoir un poisson qui sera pas spongieux en beurre, mais qui aura juste le goût du beurre. C'est pour ça que, toujours la même philosophie, mieux vaut acheter mieux oui. et en mettre moins.
Exactement. Voilà. Pareil, en pâtisserie, le beurre joue un rôle. Quand vous faites des financiers avec ce beurre noisette qui va venir donner du caractère à votre petit financier.
C'est le jour et la nuit.
C'est sublime. Alors, on parle du beurre, mais il y a les huiles aussi. D'ailleurs, on a fait un sondage sur le groupe Facebook des Bons Vivants et nos auditeurs sont plus huile d'olive que beurre, par exemple. Il y a plein de typicités dans l'huile d'olive aussi, Olivier.
Et puis des typicités et des goûts. Vous avez les différents fruités hein, qu'on appelle le vert, le mûr ou le noir. Alors pour faire rapide, le vert, c'est le plus, ce sont des olives qui sont récoltées en tout début de saison et c'est le plus végétal des arômes que vous avez trouvé. Côté un peu herbe coupée, parfois un petit peu vive d'ailleurs. Bon, le fruité mûr, ce sont des olives récoltées à maturité, donc avec un côté plus rond. Et puis, vous avez le fruité noir, qui est une technique qu'on voit de moins en moins, d'ailleurs, puisque les olives sont récoltées. Ensuite, on les met un peu de côté, on les laisse maturer pendant quelques jours avant de les presser. Ça fait une huile qui est plus crémeuse, qui est plus chère aussi.
Oui, qui est un peu plus chère, oui.
Le fruité noir que parle Olivier, c'est une huile d'exception. Mais c'est une huile, c'est pratiquement une sauce à elle toute seule.
C'est vrai. C'est un condiment.
C'est un condiment. On va la mettre, on va l'utiliser simplement pour juste arroser, peut-être voilà, rajouter sur une purée, rajouter juste une cuillère à café sur un poisson, c'est largement suffisant. Oui. Ça va donner de la puissance, c'est assez incroyable. Après, quand on prend par exemple la verte, ben, la verte, comme dit Olivier, c'est végétal, donc c'est un assaisonnement sur des salades, c'est un assaisonnement sur des légumes. Et la dernière, la fruitée mûre, c'est plus un assaisonnement sur des pâtes, sur du féculent. Parce qu'elle est mûre et elle est fruitée à la fois et c'est un bon équilibre.
Eh bien voilà, découvrez les huiles. On espère vous avoir ouvert les papilles pour vous donner envie de vous mettre au gras ce week-end. Et ne bougez pas, hein. On revient dans un instant avec une bonne vivante. Sophie Davant sera des nôtres. A tout de suite.